Tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, l'heure du documentaire. En canoë, en pédalo ou seul au boulot, en randonnée, dans une chaise longue, à la pêche à pied, en escalade, pour les moissons, au bain de soleil, en tricotant, tranquille dans la ville ou perdu dans la foule, cette heure est pour vous. 53 minutes choisies dans 10 années de Sur les docks, un thème et 4 épisodes pour faire vagabonder ses pensées et prendre les chemins de traverse. Cette semaine, des vies iliennes. Et aujourd'hui, Les eaux montent sur l'île de Sein, un documentaire d'Élise Andrieux réalisé par Diffy Mariani. L'île n'est pas forcément paradisiaque. Elle peut être austère, rude, hostile et grise. Elle peut être de granit et couverte d'ajoncs, cerclée par des eaux froides et sombres. Pourtant, si on y est né, on s'attache à son caillou. On y a planté sa maison, vu grandir ses enfants. On y a ses habitudes et ses itinéraires et forcément un coin secret. On la connaît par cœur, ses digues, ses criques, ses anfractuosités, son phare, ses plages les mieux abritées. On pourrait presque la traverser les yeux fermés. On se souvient des tempêtes, des histoires de naufrages et surtout de l'année où la mer a traversé la cuisine pour la première fois. Parce qu'on le sait maintenant, la température augmente, les glaciers et les icebergs fondent et le niveau de la mer monte inexorablement. Jusqu'à bientôt, recouvrir le caillou plat, jusqu'à ce qu'il disparaisse et qu'on l'oublie. Et ça fait tout drôle quand on y pense. Alors premier volet, on embarque pour aller voir ça de plus près.
On est comme sur un bateau, on ne peut pas être plus près d'un bateau que sur cette île. Vraiment. Quand il fait beau, c'est magnifique. On se croirait sous des îles de Caraïbes parce que bon, la mer est tellement claire, on voit à travers. Et puis le ciel, il y a un rond bleu qui s'installe tout au-dessus de l'île. Ça s'ouvre bleu et le vent chasse les nuages et vous avez toujours cette percée de soleil qui vient sur l'île, ce qui lui donne des couleurs qui changent sans arrêt. Oh, c'est tellement joli. Et quand il pleut, que la pluie passe à côté, bon, vous avez des doubles arcs-en-ciel qui s'installent. C'est quelque chose de magnifique. Ah, j'aime tout, c'est un paradis.
L'île de Sein s'étire en forme de papillon au ras de l'eau. On s'y déplace à pied car les distances sont trop courtes pour avoir besoin d'une voiture. En face, la pointe du Raz nous rappelle que l'île s'ouvre sur l'océan Atlantique. Le 10 mars 2008, les vents se sont levés et la mer a grossi, comme jamais on ne s'en souvenait de mémoire d'Ilien. En 2 heures, la tempête a ravagé l'île, laissant derrière elle des dégâts lourds et les yeux inquiets des saignants. L'île est plate, elle ne s'élève qu'à 1,5 mètre au-dessus de l'eau, et le niveau des océans monte, dit-on, à cause du réchauffement climatique. Les habitants de l'île de Sein semblent en avoir pris conscience depuis cette tempête, comme si une nouvelle ère venait de commencer. Nous embarquons pour l'île de Sein. Les eaux montent sur l'île de Sein. Un documentaire d'Élise Andrieux et Diffy Mariani.
Quand la tempête se lève, le bateau part quand même ?
Alors, c'est très rare qu'il ne parte pas. L'année dernière, ça m'est arrivé qu'une seule fois, je crois, ou deux fois. Il y a eu deux fois où le départ a été annulé. Il n'y a pas eu de bateau pendant 3 jours de suite.
Qu'est-ce qu'on voit là? On passe devant un phare?
Le phare de la Vieille, ouais. Il est magnifique ce phare. On est en plein dans le Raz de Sein là. Si on s'approche un peu, on voit le Kilaourou là-bas sur le côté à gauche. Le chat, on appelle le phare du chat, mais il me semble que maintenant c'est une corne de brume. Et puis le Kilauru, c'est la pointe qui s'engage le plus. On voit sur la gauche là.
Oui, donc on est déjà arrivé là, presque.
Presque arrivé, ouais. Quand on arrive au phare de la Vieille, il reste un quart d'heure, 20 minutes et on est arrivé.
Lorsque nous débarquons sur l'île, des roches aux formes étonnantes ouvrent la voie, et derrière les digues se dressent des maisons de couleur, et derrière les maisons de couleur s'enchevêtrent des rues labyrinthiques. Au centre, dans la mairie, Jean-Pierre Carloc nous attend.
Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Bonjour,
vous allez bien? Vous êtes arrivé là avec le bateau de 10h30?
Ouais.
Ça s'est bien passé? La mer n'était pas trop mauvaise?
Non, bah, en fait, elle était plutôt calme, je crois. Enfin, ça ne nous a pas empêché d'avoir un petit mal de mer. Mais...
Ah! Si vous voulez voir quelques photos?
Oui.
Hein, tenez, comme ça, vous verrez.
Ah.
C'était le jour de la tempête, ça.
Ah.
Oui, mais, alors, donc, voilà. Les maisons qui ont énormément souffert, c'est donc chez Nadine, chez Brigitte, ici, tout ça, ça a été défoncé, quoi. Toutes ces maisons-là ont énormément souffert, quoi, de la tempête, quoi. Le vent venait du nord, hein, le vent venait du nord, soufflait quand même à 156 km à l'heure. Il y avait un coefficient de 104 de marée, et la houle était énorme. La houle faisait entre 7 et 8 mètres de creux. Donc il y avait trois éléments qui ont fait qu'on est arrivé à une tempête énorme. C'était, je dirais, presque un ouragan, quoi. Voilà. Et puis ici, donc, vous avez la lame qui vient cogner donc, le parapet et qui monte à 17-18 mètres de haut, là, quoi. Il y avait des tonnes de sable, de galets, de goémons qui étaient un peu partout, quoi. C'était... Aller voir un petit peu comment les poubelles valsaient, comment tout dégageait, quoi. C'était impressionnant. La poubelle pleine de bouteilles, ça fait à peu près 1,5 tonnes, 2 tonnes. Ça a été balayé, fallait voir comme, quoi. Ben, on peut faire un tour, si vous voulez, tout de suite. Comme ça, ce matin, je peux m'accorder... allez, il est 11h, 11h15.
Il doit être 11h même plus.
Attendez, j'y vais là.
Oh, il est déjà
11h, non? Vous avez midi, vous aussi?
Ah oui, moi j'ai midi. Oui, je suis sûr.
En face de l'île de Sein, à Brest, l'Organisation des Nations Unies vient d'installer une antenne nommée CleanSat, qui vise à aider la Bretagne, et notamment l'île de Sein, face au changement climatique. À la Retière est le directeur de cette antenne régionale. L'ONU souhaite en développer 500 autres dans le monde au cours des prochaines années.
On est installé en Bretagne. C'est en fait le centre CleanSat est issu d'un partenariat entre les Nations Unies et cette région en particulier. Donc il nous semblait important de nous impliquer dans des sites bretons qui sont d'ores et déjà confrontés au problème du changement climatique. Et il est très vite apparu évident que l'île de Sein était, par ce qui s'est passé le 10 mars dernier, particulièrement exposé, il pouvait devenir finalement un cas emblématique. Et on a une communauté qui est assez solidaire et aussi innovante. Ils sont très impliqués dans une réflexion sur comment rendre l'île plus autonome d'un point de vue énergétique. Et nous, ça nous semble tout à fait intéressant de nous associer à leur démarche et d'essayer à la fois de leur apporter des idées, hein, qui proviennent des expériences qu'on peut conduire ailleurs. Et puis à la fois aussi porter leur expérience emblématique comme un message aussi d'espoir et de solidarité aux autres régions du monde appartenant à des pays moins favorisés que la France et qui sont confrontés finalement au même type de problème. Hein. On pense évidemment aux gens de Tuvalu qui sont en train d'être déportés, qui doivent quitter leur île, hein, dans le Pacifique. Les Iliens cherchent une solution pour rester finalement.
Quels sont donc les outils que vous allez concrètement leur permettre de recevoir?
Les outils, c'est des outils d'abord de cartographie. Hein. Le territoire de l'île de Sein, comme tous les territoires du monde, hein, il évolue. Il n'était pas le même il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 50 ans, il y a 10 ans, et puis il y a même 2 ans. Hein, si vous avez eu l'occasion de visiter l'île de Sein récemment, vous avez pu constater qu'il y a une partie de l'île qui a pratiquement disparu, quoi. Donc en fait, il va falloir mettre tout ça sur un même référentiel géographique, de façon à savoir exactement, ou le plus précisément possible, là où on a perdu du terrain, là où quelles sont les zones les plus vulnérables finalement, là où il faut en fait concentrer les efforts. Donc on va intégrer, disons, on va partir avec tout ce qu'on va pouvoir de photos, on va essayer de retracer éventuellement des cartes à partir de la mémoire historique des gens, les plus anciens notamment. On va utiliser des images satellites, on va utiliser des photos aériennes, etc., de façon à essayer de comprendre comment au cours des 100 dernières années, le territoire de l'île a évolué. Et on va essayer de le mettre ça en relation avec les événements climatiques qui ont eu lieu au cours de ce siècle.
Donc je vais vous montrer, on verra bien là assez facilement, comment est arrivée la mer le jour de la tempête par exemple.
Et c'est ici qu'elle a été cassée, monsieur le maire, la digue là ?
La digue, oui, elle a été cassée là, à force de coups de boutoir, eh bien, elle a fini par s'écrouler, cette partie-ci. Donc le morceau, on voit un morceau en bas de la grève. Et ce qui était dangereux, c'était qu'on voyait là tout le parapet. D'ailleurs, vous voyez, on a fait quelques petites réparations. Tout le parapet était en train de partir en morceaux. Il n'aurait pas fallu, si vous voulez, que la mer continue à monter une heure encore. Une heure encore, c'était trop, quoi. Donc là, on est sur le quai des Pimpolets. Ah oui, ici, donc, cette maison-ci est pareille. La porte avait été défoncée. Cette première porte blanche, là, que vous voyez, la vague est arrivée comme ça, a défoncé la première porte, est rentrée dans la cuisine, a tout renversé dans la cuisine et est ressortie par ici en défonçant cette porte, plus les volets, là.
Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, après cette tempête, par rapport à ce qu'elle peut annoncer, par rapport à l'état de la mer ?
Ouais, écoutez, c'est assez inquiétant dans la mesure où on sait aujourd'hui que la mer elle monte. Et donc on se dit que si jamais la mer monte encore de 20 cm supplémentaires avec de telles tempêtes, eh bien on peut imaginer la suite, quoi. Nous sommes sur une île qui est relativement basse puisque la hauteur moyenne de l'île de Sein est de 1,50 m au-dessus du niveau de la mer. Notre intérêt aujourd'hui, c'est de protéger nos digues. On n'a que cette solution-là si on veut, prolonger la vie de l'île de Sein. On n'a qu'un seul atout aujourd'hui, c'est de protéger nos digues. Et quand on voit, il suffit de se tenir à cet endroit-là, on voit un petit peu, que sans digue, l'île de Sein n'existe plus. Si cette digue-là n'existe plus, ça veut dire que toute cette maison, toutes ces maisons qui sont alignées donc en plein est, eh bien, n'existent plus. C'est la fin de l'île. Alors, donc c'est pour ça que notre but premier aujourd'hui, c'est de faire le nécessaire pour restaurer nos digues.
Et si la mer monte, est-ce que les digues suffiront ?
Malheureusement pas. Mais c'est un moyen pour retarder l'échéance. Moi, je vois pas d'autre solution. Non, il n'y en aura pas. La situation est assez catastrophique, hein.
Et vous avez entendu parler des îles Tuvalu ?
Oui. Bien sûr, le problème des îles Tuvalu ressemble un petit peu au problème des gens de l'île de Sein. C'est une île également qui est très basse, puisqu'ils ont une altitude moyenne de 1 mètre, 1 mètre 50, 1 mètre, je crois. Et donc ils ont les mêmes problèmes, c'est-à-dire qu'ils voient la montée des eaux. Ils voient la montée des eaux. Et puis malheureusement, ils se disent qu'ils sont victimes, parce que ce sont des victimes. Hein, ce sont des gens qui polluent très peu, du moins, et qui malheureusement, eh bien, sont les premières victimes du changement de climat. Malheureusement, si la mer continue à monter, on est voué à une certaine échéance. Et eh bien, il faudra peut-être un jour, évacuer. Donc, eh bien, on est voué à la mort, quoi. Ouais.
Je m'appelle Eli Akimo. J'ai 53 ans. Je suis originaire de l'île de Vaitupu et je vis depuis 12 ans ici à Funafala. Si je devais quitter Funafala à cause du réchauffement climatique, partir en Nouvelle-Zélande ou dans une autre île du monde, c'est notre nourriture locale qui me manquerait le plus. Les poissons que nous pêchons dans le lagon et l'océan, les fruits et les racines que nous récoltons, enfin tout ce que nous mangeons tous les jours, sans avoir besoin de l'acheter.
Habiter sur l'île de Sein depuis combien de temps? Depuis toujours?
Depuis toujours, oui, oui, oui. 70 ans que je suis là.
Est-ce que vous pourriez vivre ailleurs, par exemple, que sur l'île?
Ah non. Ah non, sûrement pas. Non.
Pourquoi?
Ben, qu'est-ce que vous voulez? On est tellement habitués ici. C'est un grand changement pour nous de partir. Un très grand changement. Alors, il y a les voitures, il y a... Non, c'est vraiment différent, quoi. Alors, on veut bien partir, hein, un petit peu, mais on revient aussitôt. En partant de la maison, on se dit, ben, on part lundi, mais on reviendra sûrement mercredi.
Et on dit que les océans montent, est-ce que vous y croyez, vous?
Oui. Ah oui, c'est pas d'aujourd'hui. À l'île de Sein, on le remarque depuis longtemps déjà.
Oui.
Oui, oui. J'entends mon mari toujours dire ça. Lui, bon, il va faire son tour au Liver ou au phare. Il se rend compte que c'est rongé à mesure. Hein. Ah oui, certainement. Et depuis longtemps. Oui, oui. Quand on entend maintenant parler tellement de tout ça, j'en dis toujours, oh là là, c'est pas d'aujourd'hui.
Et qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Ben, qu'est-ce que vous voulez? Il faut bien mourir d'une façon ou d'une autre, mais bon, si c'est comme ça, c'est comme ça. Hein. Parce qu'au mois de mars, là, on a eu... un coup de mauvais temps et la mer a monté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah oui, là, on a eu... tout le monde a eu peur, c'est sûr, mais personne ne le dit. Hein. Personne ne le dit. Parce que moi, je ne suis pas allée sur le quai voir la mer tant que c'était la marée haute. Je suis allée voir la mer quand elle commençait à descendre. Ben, j'étais plus rassurée, quoi. Parce que je la voyais de chez moi, j'allais voir là-haut.
Et qu'est-ce que vous voyez?
Chambre, là. Ben, la mer monstre, qui sautait partout. Parce que la mer saute par-dessus les digues. Ah oui, 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 bien sûr qu'on y croit à ça, certainement.
Et pourquoi les gens ne disent pas qu'ils ont peur, alors?
Ben parce que, je sais pas, parce qu'on est, on reste là, quoi. Autrement, on partirait.
Et vous avez déjà vu l'eau, vous, Janine, arriver jusqu'ici?
Oui.
Parce qu'il y a plus d'une centaine de mètres jusqu'à la côte, là, d'ici. Elle était venue jusqu'ici, jusqu'à la maison?
Oui. Ah oui.
Et vous aimez la mer?
Ah oui, bien sûr. Ah oui. J'aime la mer, mais je vais dessus qu'en bateau. Je ne sais pas nager. Parce que mes parents ne savent pas nager. Mes frères ne savent pas nager, ni moi non plus. Alors je pense que ça vient beaucoup des parents, si je pense. Ouais. Et Jean sait nager. Ouais. Alors j'avais dit, si j'ai des enfants, sûrement qu'ils auront un lot de bonheur. Et Sylvie avait nagé à 4 ans, José à 7 ans. Ils ont appris ensemble. Ah oui.
C'est important pour vous qu'ils sachent nager.
Ah, mais certainement. Mais certainement. Vous vous rendez compte, mon père était en mer. Mon père allait en mer avec son bateau, avec mes frères. Aucun savait nager.
Et est-ce que vous pensez que la tempête qu'il y a eu en mars de cette année, ça peut arriver par exemple cet hiver à nouveau? Ce genre de tempête?
Oh oui, malheureusement, oui. Mais on se dit, ah non, parce que vous voyez, Jean qui a 74 ans, il n'a jamais vu ça. Il n'a jamais entendu son père en parler. Ni mon père non plus d'ailleurs. Alors on se dit, bon, nous on verra plus. Ça ne va pas revenir tous les ans quand même. Ça ne va pas revenir tous les ans, ou alors c'est la fin du monde. Ah non, si vous aviez vu la mer. Si vous aviez vu la mer, comment elle était. Énorme.
À l'île de Sein, en fait, et dans toute la Bretagne, en fait, la grande question, c'est de savoir dans quelle mesure la fonte des glaces
à la Retière,
au pôle nord
de Klimsat,
va altérer la vitesse et disons la force du Gulf Stream. Si le courant se ralentit ou perd d'intensité, on va avoir un rééquilibrage des niveaux, ce qui veut dire que le niveau de la mer il va augmenter considérablement en Bretagne. Donc ça veut dire qu'on va avoir des phénomènes comme celui qu'ont vécu les gens de l'île de Sein, de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses. On va avoir une montée des eaux, ça veut dire qu'il y a des îles qui vont probablement disparaître. Enfin, il y a des rochers qui disparaîtront. Et puis, les villes habitées, qui sont les parties les plus hautes, finalement, vont s'être de plus en plus vulnérabilisées.
Une montée des eaux qui peut aller jusqu'à combien de centimètres?
Alors écoutez, ça c'est la question qui angoisse tout le monde, mais que tous les scientifiques essaient d'éluder. Ce qu'on sait à science sûre, c'est qu'on n'échappera pas à une élévation de 2 degrés, de la température globale de 2 degrés à échéance 2050. Donc plus 2 degrés, c'est pas du tout anodin. Plus 2 degrés, ça veut dire qu'on aurait pratiquement de la végétation quasiment méditerranéenne dans le sud de la Bretagne. Alors tout ça est très très progressif, évidemment. Finalement, le grand public s'en rend pas bien compte. Il se dit, mais ça va se passer quand? Est-ce que ça sera le prochain siècle ou quoi? Ben, les gens qui travaillent déjà dans la, par exemple, dans la rade de Brest, on sait qu'il y a des huîtres maintenant qui viennent du sud. Et ces huîtres, en fait, disons, affinité plus tropicale, ont pu coloniser plus au nord en bénéficiant de l'élévation de la température de l'eau.
Et l'île de Sein, qui se situe à peu près à 1,50 m au niveau de la mer actuelle, voilà. Est-ce qu'elle est menacée d'être submergée, d'être...
Effectivement, dans les scénarios, disons, les plus probables, on parle effectivement d'une élévation de 1,50 m d'ici 2100. Donc ça voudrait dire effectivement qu'il existe un risque tout à fait réel de disparition de l'île de Sein.
On voit bien, moi je peux vous dire qu'il n'y a pratiquement plus de galets là. Alors là, d'ailleurs c'est facile, il suffit de regarder là, dans cet endroit-là, on n'en voit plus de galets, c'est fini. Hein. Ils sont en train de fermer des digues là.
Ah.
Il faudrait peut-être que j'aille les.
Vous voulez qu'on aille les voir?
Je sais pas, peut-être, puisque je vais voir dans la grève là. Je sais pas. Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Je suis le maire de l'île de Sein.
D'accord. Oui.
Vous êtes, vous venez pour les digues?
Voilà, c'est ça.
Vous êtes arrivé quand ce matin?
Oui, c'est ça.
Vous auriez dû venir me voir, non?
Bah, c'était pas prévu, mais non. C'est vrai que j'ai eu monsieur Provost l'appareil.
Ah, ouais. Ah, c'est Provost qui vous a contacté.
De la DDE, ouais. En fait, on est arrivé vers 11h et c'est vrai qu'on était un peu.
Ah, ouais, d'accord.
On est arrivé un peu.
C'est vous qui venez faire de la géophysique sur la digue.
C'est
hein.
ça.
Ah, d'accord. Et là, vous avez commencé donc à faire vos.
Oui, ouais, ouais, on a commencé ce matin dès qu'on est arrivé.
Un premier étape.
Un premier diagnostic, ouais. Ouais, en tout cas, ouais. De toute façon, c'est très altéré. Ouais,
et vous, voilà, joints, c'est ça. Alors,
c'est-à-dire que les joints, ils sont vraiment abîmés.
Ouais.
En tout cas, de toute façon, on le voit de visu, hein,
ouais,
au-dessus.
C'est sûr, de visu, ouais.
Et puis, il y a des zones où il y a vraiment des cavités à l'intérieur.
D'accord.
Donc, j'en ai vu une. Après, d'accord. Je ne peux pas vous en dire plus, okay. Mais il y en a une. Ouais.
Là, je regardais aussi la dernière pierre qui a été posée. Vous avez vu, tous les joints sont partis.
Oui, au-dessus.
Si bien que quand la vague arrive, paf, ça décolle.
C'est-à-dire qu'en fait, il suffit qu'il y ait une tempête, ça fait bouger la digue.
Tout à fait.
Et donc, du coup, en fait, on a les joints qui se fissurent.
Ouais.
Et à partir du moment où un joint est fissuré, là, il s'altère très rapidement. Si l'eau s'infiltre, c'est fini.
C'est juste entre les deux parements, c'est du gravier et des galets.
D'accord, donc ça, c'est bon.
C'est pour ça, si vous voulez, vous passez à la mairie. Hein. Vous êtes là jusqu'à quand?
Oui, on est là jusqu'à demain.
Demain matin, c'est pour quelle heure est le premier bateau?
Il n'y a pas de premier bateau. Demain, c'est mardi. Ce sera 16h.
D'accord, on est là jusqu'à
16h.
Donc,
de toute façon, ok, on est là jusqu'à 16h. Bon, bah, ouais. On va aller se balader. Ouais. Parce que je pense qu'on va avoir fini. Ouais.
C'était sérieux. Bon, bah, bon courage.
Très bien.
À demain.
Combien est-ce qu'il y a d'habitants en ce moment sur l'île?
Je suppose que, c'est ce qu'on a toujours pensé, qu'on était à peu près dans le creux de la vague, on devait être à peu près à 120 personnes en plein hiver.
Il y a combien d'enfants dans l'école de l'île de Sein?
Je crois que, attendez, il y a une fille au collège, qui est en 6e. Et autrement, donc au primaire, ils sont, je crois, 9. Ils sont donc une dizaine d'élèves sur l'île de Sein, quoi.
On pourrait
Tu sais plus ce que tu veux dire.
Alors moi déjà, je voudrais vous demander, à votre avis, dans plusieurs années, comment sera l'île de Sein?
Peut-être que dans 60 ans, tout sera inondé et puis il y aura peut-être pas plus de maisons. On sera peut-être mort ou on sera peut-être sur le continent.
Peut-être que l'île de Sein sera toujours habitée.
Je pense que dans 50 ans, la mer va être inondée, mais elle va s'arrêter juste à côté de l'église. Donc après, alors ceux qui voudront rester sur l'île de Sein, ils seront restés sur le toit de l'église. Au moins du toit de l'église, tu pourras pêcher des pochons.
Super.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une façon, ou est-ce que vous n'avez pas des idées pour empêcher ça?
De faire des barrages.
De moins polluer.
Bah, tout le monde part en bateau.
Sinon, on met moins de CO2 dans les voitures et on arrête un peu les usines.
Et Nora?
Maîtresse, mais s'il n'y a plus d'usines, bah comment on va faire? On ne va plus pouvoir fabriquer une maison, le papier peint.
Bah aussi, on peut remonter une maison de 1 mètre. Toutes les maisons de 1 mètre, comme ça, ils ne vont pas couler.
Après, ça arrive jusqu'au ciel.
Oui, bah alors, on s'engloutit sinon.
Bah non.
Bah si.
Par exemple, pour les usines de voitures, on peut aller en vélo quelque part.
Nora?
Bah, en vélo, ça va mettre beaucoup de temps.
Ah.
Et quand ils disent de venir, par exemple, à midi, c'est plus simple de prendre la voiture. Au moins, t'arrives à midi.
Oui.
Peut-être qu'il faut laver la mer avec des tuyaux. On a des tuyaux avec un bateau et on aspire la pollution. On la met à la poubelle, on la brûle.
Non.
facile.
Et on la garde dans le bateau.
Ah oui, mais tu vas les escaliers pour descendre.
On peut y aller, maîtresse. On peut y aller, maîtresse.
On peut y aller.
La réalité rejoint nos légendes et l'on croit encore aux légendes sur l'île de Sein. Il en existe une qui raconte la cité d'Is, cette ville engloutie qui se trouverait au large de la Bretagne. Is était la plus belle et la plus impressionnante des villes du monde. Mais comme dans l'histoire de l'Atlantide, un autre continent perdu, on raconte que les dieux ordonnèrent la submersion de la ville d'Is à cause du péché qui régnait parmi ses habitants.
C'est la légende de la ville d'Is, Christine ?
Un tout petit peu.
On vous l'a raconté ?
On me l'a raconté, oui, bien sûr. C'est des choses qu'on se raconte souvent, ces choses-là. Toutes les légendes.
Qu'est-ce que ça raconte alors, la ville d'Is ? Parce qu'on dit qu'elle sera engloutie en face dans la baie des Trépassés ?
Non, la ville d'Is a été engloutie dans la baie de Douarnenez.
Ah oui,
elle est sous les eaux de la baie de Douarnenez.
En face.
Et là dorment à jamais les ruines de la ville d'Is. C'était le maître de cette ville, était le roi Gradelon, et qui avait une fille, princesse maudite, qui s'appelait Dahu. Et Dahu menait grand train et bonne vie dans la ville. Et un jour, un prince charmant, soi-disant charmant, l'a séduite, mais ce n'était autre que le diable. Et le diable a réussi, par le biais de Dahu, à prendre les clés de la ville, alors que cette ville était protégée par des digues et des écluses, pour pas qu'elle... Et donc, avec cette clé, il a ouvert les portes des écluses.
Il faisait promesse d'un nouveau divertissement, d'une cruauté insurmontable. Déroba à son père, pendant qu'il était endormi, la clé d'or. Elle la porta à l'écuyer noir. Celui-ci, invisible dans le noir de la nuit, ouvrit le puits funeste au milieu de la ville. Aussitôt, l'eau entra dans les rues, elle pénétra dans les maisons fermées, elle battit les murs, elle s'empara de toute la capitale. Alors les habitants, éveillés en sursaut, saisis de terreur, se mirent à fuir de tous côtés, poussant des cris de désespoir. La belle Dahu les regardait du haut de son palais et riait, elle riait à gorge déployée. Le roi Gradelon, qui dormait dans son palais, fut soudain réveillé par une voix qui disait « Sire, sire, il faut vous sauver. Le jour du châtiment est venu pour votre peuple, car la mesure est comble. » Guénolé, le disciple de Saint-Corentin, était à côté du roi. « Sire, suivez-moi. » L'eau attaquait le palais. À peine purent-ils chercher leurs chevaux et sauter dessus. « Ma fille !» s'écria tout à coup le bon roi Gradelon. La belle Dahu comprit enfin le péril, et entendant la voix de son père, elle descendit en hâte. L'eau avait masqué les portes des écuries. Dahu n'hésita pas et sauta sur la croupe du cheval de son père, s'accrochant à lui. Les chevaux fuyaient comme des flèches. L'épouvante leur donnait des ailes. La mer devenait de plus en plus furieuse. Des vagues immenses s'élevaient et couvraient d'écume blanche les fugitifs. Le cheval du roi Gradelon, qui portait double charge, ralentit, fléchit et s'arrêta. « Roi Gradelon, tu es perdu si tu ne te sépares pas du démon que tu portes en croupe !» s'écria Guénolé. Ce cri trouva la belle Dahu. Les forces l'abandonnèrent, sa tête tomba en arrière, ses bras lâchèrent le roi et Dahu glissa dans les vagues furieuses. La mer se calma comme par enchantement. Les flots cessèrent de mugir, l'océan n'avança plus, mais ne recula pas. Quand le malheureux roi se retourna, il ne vit plus rien de sa capitale. La ville d'Is avait disparu sous la mer. Le roi ne vit que la surface bleue de la baie de Douarnenez, comme tu la verras, ami, aujourd'hui, si tu vas en Bretagne.
Vous y croyez à la légende ?
On y croit toujours un peu aux légendes. C'est joli, je trouve, les légendes.
J'avais un matelot, il gueulait dans le bateau, tout d'un coup, en pleine mer, comme ça. « Et si on pêchait une sirène ?» Alors là, tout le monde se réveillait, et tout le monde commençait à rêver à la sirène de ses rêves, là. Et puis, ça remettait de l'ambiance dans le bateau, et puis c'était reparti pour un tour. Voilà, l'histoire de la sirène. Ouais.
On vous appelle Fanch ou François ou...
Peu importe, il y en a qui m'appelle Fanch, il y en a qui m'appelle François, alors moi je m'y retrouve. Allez, Fanch, allons-y pour Fanch.
Et Fanch, vous êtes marin donc sur l'île de Sein, vous êtes combien encore en activité ?
Ben, on n'est plus que deux en ce moment. On a été 350 inscrits maritimes ici il y a 40-50 ans. Et là maintenant on n'est plus que deux. Alors vous imaginez la descente.
Et vous, vous pêchez quoi ?
Alors moi je suis pêcheur de bar. Ce que je trouve bizarre moi, parce que bon, ça fait quand même depuis l'âge de 15 ans que je suis marin, donc ça fait quand même une paille que j'observe les choses. Avant, la mer n'était jamais grosse aux grandes marées. C'est toujours aux mortes eaux qu'il y avait de la houle. Le mauvais temps, c'était toujours aux mortes eaux, quoi. Et maintenant, c'est tout le contraire. Depuis quelques années, on voit du mauvais temps régulièrement aux grandes marées.
Et si on vous demandait de partir de l'île, qu'est-ce que vous feriez ?
Mais on n'y croit pas trop.
Ah non ?
Non, moi j'y crois pas, parce qu'on n'a pas envie de quitter notre île comme ça.
Vous préférez pas y penser ?
Non, je préfère ne pas y penser. Mais bon, mais on est conscient, on est quand même conscient intérieurement qu'il y a peut-être des problèmes, quoi. Non, non, là, je ne me vois pas partir.
Vous resteriez ?
Ah non, non, moi, s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. un tsunami, par exemple, ben nous, bon, ben, ce serait vite balayé, quoi. Mais tant qu'il n'y a pas un tsunami, si c'est que ça monte tous les ans d'un millième de centimètre, bon, moi, on est solide encore pour quelque temps. Hein.
Ouais.
Enfin, moi, je reste optimiste. Tant que j'ai la santé, je continuerai à aller en mer parce que je ne vois pas, je m'ennuie autrement. Je tourne en rond. Et bah, quand vous avez fait ça depuis l'âge de 15 ans, hein, je commençais à 15 ans, et je n'ai jamais débarqué. Sans la mer, moi, je suis paumé, quoi.
Mais si jamais vous devez partir de votre île, à qui est-ce que vous en voudrez ?
Ah. À qui j'en voudrais ? Ben, si c'est un problème d'environnement, si c'est dû à un problème d'environnement, ben, ce sera la bêtise humaine. Et la bêtise humaine, il y en a beaucoup. Et ben, maintenant, pour montrer du doigt qui... Je sais pas, ça demande réflexion.
Mais est-ce que vous pensez également à la retière que les Sénans ont conscience qu'un jour peut-être ils devront évacuer leur île ?
Eux, ils sont conscients et ils sont conscients d'être très vulnérables par rapport aux grands acteurs économiques. Donc, quelque part, le jour où l'île de Sein devra, où les habitants devront quitter, parce que ça sera plus possible, quelque part, ça voudra dire que bah, l'humanité a pas été capable de gérer en fait la planète Terre. Hein. Parce que s'ils doivent un jour disparaître, ça sera de la faute de l'humanité. C'est pas de la faute de la nature. C'est pas une adversité. C'est pas quelque chose. C'est quelque chose qu'on a produit en tant que et on est tous coupables. Vous venez le matin en scooter à votre travail, bah vous émettez des gaz à effet de serre. On a tous participé et on continue à participer tous par nos modes de vie au problème. Donc si un jour les Iliens doivent quitter l'île de Sein, ils seront victimes finalement d'une mauvaise gestion par l'espèce humaine des ressources de la planète.
Pourquoi on n'a pas été capable ?
Moi je viens de la profession agricole, hein, donc je suis agronome et on a tendance dans le milieu, quand on parle d'agriculture, on dit on est un exploitant agricole. Qu'est-ce que ça veut dire exploiter ? Ça veut dire tirer parti de. Ça veut dire quelque part se battre contre la nature. Pendant longtemps, l'homme s'est battu contre la nature. Et puis finalement, l'homme a gagné. Et aujourd'hui, c'est la nature qui se bat contre l'homme. Et donc maintenant, il faut que l'homme arrête de considérer que la nature est un ennemi et que prenne conscience de la vulnérabilité de la nature et qu'au contraire, on se mette au service de sa conservation. Parce que finalement, on n'est pas différent des autres espèces. On n'achète pas la logique en fait de l'écosystème, donc on est une espèce parmi d'autres et alors très puissante bien sûr avec beaucoup de moyens, très égocentrique aussi. Hein. On a tendance à penser qu'à nos propres intérêts et j'ai envie de dire avec la crise économique actuelle, on voit comment finalement les priorités se recentrent hein, et se recentrent pas vers le développement durable, alors que finalement c'est ce qui devrait être fait. C'est pas une histoire, disons, de poésie, c'est pas une histoire, c'est une histoire de nécessité, de rationalité économique. Il faut qu'on aille vers le développement durable, sinon on va au-devant de très grandes catastrophes. Et je pense qu'aussi il y a des gens qui pensent qu'en fait la technologie résoudra tout, qu'on trouvera les parades, des gens qui disent on trouvera bien le moyen d'évacuer ces gaz à effet de serre. Je pense qu'il faut se rendre à l'évidence, ça ne se passera pas comme ça.
Je vais vous montrer tout de suite, là on y arrive, hein. Je vais vous montrer les dégâts que peut faire la houle quand elle vient cogner certains coins de l'île. Moi je me souviens effectivement quand j'étais gosse, et bien là depuis, on a perdu 2 mètres là quoi. Et je vais encore vous en montrer, regardez. Voilà, donc le terrain avant la tempête, passé là comme ça. C'est-à-dire que là, sur 80 mètres, regardez, on a perdu 4 mètres de large sur 80 mètres. Donc, et là, il reste combien de mètres? Il reste 30 mètres pour rejoindre l'autre partie de l'île. Il faut savoir qu'ici, à l'île de Sein, nous avons une mer de droite et une mer de gauche. Donc la mer de gauche est ici. Voilà, c'est la mer de gauche. Et là, la mer de droite. Donc là, pour que la mer de droite rejoigne la mer de gauche, Il reste 30 mètres. Et là, sur les 30 mètres, ce n'est que du sable et du galet.
Ça veut dire que l'île peut être coupée en deux ?
Tout à fait. Ça veut dire que demain, l'île peut devenir un archipel. Ouais. Donc là, on voit bien, hein, comment la mer s'engouffre sous ses mottes de terre. La retourne et puis gagne du terrain à chaque fois quoi. Regardez ce que c'est.
Ouais.
C'est du sable. C'est du sable, c'est du. Là c'est de l'argile. Mais regardez comme c'est friable, comme ça part. Donc vous imaginez quand la mer vient là-dedans, c'est. Ça part vite. Hein. Ça part très 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 vite, malheureusement. Bon, on va au phare.
Allez. Avant qu'il fasse nuit.
Ouais, parce que la nuit tombe vite. Puisqu'il faut savoir quand même que le phare, c'est le point névralgique de l'île de Sein. C'est au phare qu'on produit l'électricité. Et c'est également au phare que l'on produit l'eau douce. C'est au phare que l'eau de mer est transformée donc en eau douce.
C'était pour quoi? Pour la tempête là.
Pour vous dire, oui voilà, parce qu'on m'avait dit que c'était possible de monter en haut du phare.
Ah oui, vous avez l'autorisation.
Ouais.
Ouais, vous pouvez essayer. Hein.
Ouais. Mais bon, c'est vrai que...
Les spécialistes nous disent que le réchauffement de la planète, ceci, cela, bon, il y a bien quelque chose qui est vrai. Hein.
Oui, oui.
Hein? Bon, même celui qui ne veut pas croire, mais bon, quand tout le monde en parle, bon, il y a bien quelque chose. Hein. Entre nous, au pire. Même le gars qui dit non, c'est pas vrai, bon, la plupart du temps, ils vont tous dans le même sens. Hein.
Ah, bien sûr, bien sûr.
Le comble là-bas en Alaska, c'est de. Vous savez, ils ont d'énormes pipelines qui traversent donc tout l'Alaska pour le pétrole. Ils sont en train de mettre des refroidisseurs pour que le permafrost reste glacé. Vous êtes au courant de ça? C'est comme si on se mettait à mettre des radiateurs dans le Sahara, quoi.
Donc le Groenland a diminué de beaucoup, hein. Hein, il y a pas longtemps, la semaine dernière, je crois, sur TF1, je voyais sur télévision, hein, ils montrent et puis bon, on voit sur une année même ça a vachement. Ouais.
Ah, bien sûr.
Mmh. Regardez. De marches.
Vous êtes gardien de phare depuis combien de temps ici?
Phare de Saint depuis 1995. Après l'automatisation du phare de la Vieille, j'ai été affecté ici. Le vent a passé à l'ouest. Le vent était nord les jours derniers, mais là on est plus à l'abri. Oh. Un tour de pierre qui est cogné contre le phare. Ah ouais. Alors là, vous voyez l'île, la forme de l'île, qui est un peu en zigzag. Vous avez la pointe de Pamar dans le fond là-bas, vous voyez le phare de Pamar et une petite pointe là-bas, une petite bougie, là, vous voyez pas là,
ouais.
Dans le... Après vous avez la baie d'Audierne, de la pointe de Pamar jusqu'à la pointe du Roi, c'est la baie d'Audierne. La pointe du Roi, la baie des Trépassés qui se trouve au milieu, et la pointe du Vent. Ouais. Je me lasse pas quand je monte ici, la vue est magnifique. La nature est belle, quoi.
Vous étiez là le jour de la tempête du 10 mars, dans le phare?
Non, j'étais à terre. Une tempête qu'on n'avait jamais vue, que les Iliens n'avaient jamais vue.
Ici, on est protégé quelque part, vous, quand vous êtes ici?
Le haut du phare est protégé, mais bon, le tour du phare a été quand même bien escanté. Hein, ouais. On a un mur d'enceinte qui fait 2 mètres de haut et tout est tombé. Le phare avait les pieds dans l'eau. Ah oui, on est au même niveau que les atolls polynésiens. Le réchauffement de la planète se ressentira beaucoup plus sur l'île que sur le continent, que la pointe du Roi, parce que la pointe du Roi est vraiment haute quand même. Il y a des falaises très, très abruptes, mais l'île de Saint est très plate. Hein. Le réchauffement est inéluctable, je pense. Hein.
Et par tempête, vous êtes déjà venu ici, qu'est-ce qu'on voit?
On voit la houle déferler sur l'île. On voit c'est là qu'on voit qu'on est petit, par rapport à l'immensité de la mer. Et que l'île est vulnérable, quoi. Ils ont annoncé des dépressions en série. Là. Tous les deux jours, on va avoir une dépression. Dépression d'ouest. Là, on avait des vents nordés là, pendant une semaine. Là, et là, le vent a repassé ouest. Et on va subir les dépressions tous les deux jours. Tous les deux jours, force 7-8, 80 km à l'heure, tous les deux jours. Quoi.
Combien de temps est-ce que vous pensez que nous avons devant nous pour agir ou réagir avant qu'il y ait de trop grandes perturbations à la retière?
On a 100 mois.
Vous pensez seulement 100 mois?
Oui. Oui, parce que là si en gros, on s'accorde à penser qu'on a probablement la capacité à gérer une élévation globale de la température de 2 degrés, mais on n'a aucune idée de comment on fera si on est au-dessus de 2 degrés. Et pour réduire, disons, maintenir le réchauffement à un niveau de plus 2 degrés, il va nous falloir agir très, 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 très vite et très vigoureusement. Oui. Si on laisse se développer une vision apocalyptique du changement climatique, alors les gens vont se dire, bon, à quoi bon faire quelque chose si on est foutu de toute façon? Or, on n'est pas foutu. Non, c'est pas vrai. Il y a des choses qu'il faut. Mais il faut qu'on ait le courage et la discipline de le faire.
En tout cas, on dit que les îles Tuvalu seraient peut-être les premières à disparaître. Est-ce que c'est vrai?
Oui, c'est vrai, oui. Oui, c'est vrai. C'est en cours, hein. C'est malheureusement...
Ils ont déjà commencé à partir?
Oui.
Combien est-ce qu'on pourrait avoir de réfugiés climatiques en 2050 si on imagine que la mer est...
Bon, alors là, j'ai pas le chiffre bien en tête, mais c'est de l'ordre de plusieurs millions. C'est de l'ordre de... Ça se chiffre en centaines de millions.
En 1910, Jules Verne écrit « L'éternel Adam », une courte nouvelle qui raconte la vie sur Terre dans un futur lointain. Son personnage, le Zartok Sofre Aïsser, c'est-à-dire le docteur, troisième représentant mâle de la 101e génération de la lignée des Sofres, découvre un étui de métal inconnu dans lequel repose un texte ancien. Après de longues années de recherche, le Zartok Sofre parvient à traduire ces quelques pages et voit apparaître le témoignage d'un homme qui survit à un cataclysme sans précédent. Cet homme raconte comment, après une montée des eaux soudaine dans sa province, il parvient à fuir et à trouver refuge à bord d'un navire. En sillonnant les océans, l'homme et l'équipage du bateau découvrent avec effroi que tous les continents ont disparu. Au bout de longs mois, sur une mer infinie, un îlot saillant et aride apparaît, où il décide de s'installer. Les années passent, la petite société s'agrandit et la vie renaît. Mais les conditions dans lesquelles ils survivent sont si rudes, avec pour unique but de se nourrir chaque jour, que les nouvelles générations se rapprochent chaque fois davantage de l'animal, loin de leurs aïeux pensants. Ils ne savent plus lire, ni compter, à peine parler. Ayant terminé de lire le manuscrit antique qu'il tient entre les mains, le Zartok Sofre Aïsser comprend qu'il descend de ces hommes. Doucement, épouvanté, il conçoit alors le drame qui se joue perpétuellement dans l'univers, l'éternel recommencement des choses. Un siècle a passé depuis le récit de Jules Verne. Quelle science-fiction écrirons-nous dans 100 ans ?
En tant que Tuvaluenne, je ne veux pas quitter mon pays. Je ne veux pas perdre ma culture et tout ce qui me lie à Tuvalu. C'est tout ce que je veux dire.
We are Tuvalu, in the smallest island in the Pacific.
Tuvalu est la plus petite île du Pacifique. Et bien que nos voix soient faibles, nous demandons au monde de regarder ce qui se passe aujourd'hui.
Ça y est, le soleil se couche, il n'y en a plus pour très longtemps.
Il est 17h, 17h30, hein. Dans 5 minutes encore et puis il n'est plus là. Il va plonger dans l'eau, avec ses rayons, là. Et puis, bien sûr, les nuages gris, un peu de bleu. C'est beau. Donc, en face, c'est l'Amérique. C'est un petit peu l'histoire de la ville 10, quoi. Les hommes qui aujourd'hui négligent un petit peu la planète et puis demain à cause de ce genre de méfaits malheureusement des quartiers entiers qui disparaissent, c'est possible, oui. Il serait peut-être temps de faire quelque chose, quoi.
C'était sur les docks, les eaux montent sur l'île de Sein. Merci à Jean-Pierre Kerloc, Alain Retière, Janine Timmer, Françoise Pinec, Virginie et les enfants de l'île de Sein, Michel Rosen, Christine, Nana,
Merci à Yvon, Keta et à Cécile Rock de l'INA. Attachée d'émission Christine Gage et Laure-Hélène Planchet, productrice coordinatrice Irène Omelianenko, prise de son Olivier Berotte et Manuel Couturier, mixage Philippe Bredin, réalisation d'Ifi Mariani, un documentaire d'Élise Andrieux.
L'heure du documentaire, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, liens et podcasts pour le bateau, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook à la page France Culture Documentaire. Et demain, deuxième épisode, les insurgés de Sercq ou la nostalgie féodale.